Chapitre 27. Jacob et Ésaü. Par l'histoire de Jacob, l'Esprit de Dieu nous donne un enseignement profond sur les conseils de la grâce de Dieu, ainsi que sur l'entière incapacité et la corruption absolue de la nature humaine. L'élection de la grâce. Revenons ici sur un passage du chapitre 25, laissé intentionnellement de côté. Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel se rendit à ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants s'entrepoussaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je là ? » Et elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Versets 21 à 23. Malachi fait allusion à ce passage. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob ? Dit l'Éternel. Et j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. » Malachi 1, versets 2 et 3. Et ces paroles du prophète sont citées par l'apôtre Paul. Car avant que les enfants fussent nés, et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeurât, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, « Le plus grand sera asservi au plus petit, ainsi qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Romains 9, versets 11 à 13. Le conseil éternel de Dieu selon l'élection de la grâce nous est ainsi clairement présenté. Cette expression « l'élection de la grâce » a une immense portée. Elle anéantit toutes les prétentions de l'homme et proclame le droit de Dieu à agir comme il lui plaît. Ceci est de la plus haute importance. L'homme ne peut jouir d'un bonheur réel que s'il est amené à courber sa tête devant la grâce souveraine. Il lui convient de faire ainsi puisqu'il est pécheur et absolument sans droit de prescrire à Dieu quoi que ce soit. Le grand avantage qui en résulte pour nous, c'est que, quand nous sommes sur ce terrain, il ne s'agit plus pour nous de ce que nous méritons, mais de ce qui plaît à Dieu de nous donner. Le fils prodigue voulait, comme par humilité, prendre une position de serviteur, mais s'il s'agissait de mérite, il n'était même pas digne d'occuper une telle place. Il ne lui restait donc qu'à accepter ce que le Père trouvait bon de lui donner, savoir la position la plus élevée, celle de la communion avec lui-même. Heureux sommes-nous qu'il en soit ainsi. À mesure que nous avançons, faisant jour après jour de nouvelles découvertes au sujet de ce que nous sommes, nous avons besoin, pour être soutenus, de l'inébranlable fondement de la grâce. La ruine de l'homme est sans espoir. Il faut par conséquent que la grâce soit infinie. Et c'est bien ce qu'elle est. Nous voyons en Jacob la puissance de la grâce divine, parce que nous trouvons en lui un exemple remarquable de la puissance de la nature humaine. Elle apparaît en Jacob dans tout ce qu'elle a de retors, et ainsi la grâce se montre dans toute sa beauté. D'après les faits qui nous sont rapportés, il semble que déjà avant sa naissance, au moment de sa naissance et après sa naissance, l'énergie exceptionnelle de sa nature se soit montrée. Avant sa naissance, nous lisons, les enfants s'entrepoussaient dans son sein. À sa naissance, sa main tenait le talon d'Ésaü. Et après sa naissance, nous voyons d'un bout à l'autre de sa carrière les manifestations d'une nature revêche. Mais tout cela, comme un fond noir, ne sert qu'à faire ressortir la grâce de celui qui condescend à s'appeler du nom de Dieu de Jacob. Jacob se fait passer pour Ésaü. Au chapitre 27, nous trouvons un tableau particulièrement humiliant. Convoitise charnelle chez Isaac, mensonge et ruse chez Jacob et Rebecca. Ces choses sont d'autant plus affreuses quand on les trouve, comme ici, chez les enfants de Dieu. Cependant, quand le Saint-Esprit nous raconte l'histoire de l'homme, il ne peut pas nous en faire un tableau incomplet. Il le peint tel qu'il est. Pareillement, quand il révèle le caractère et les voies de Dieu, il nous le montre tel qu'il est. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin. Il nous faut cette révélation d'un Dieu parfait en sainteté et en même temps parfait en grâce et en miséricorde. Un Dieu qui a pu descendre dans toute la profondeur de la misère et de la dégradation de l'homme pour le faire sortir de sa triste condition et l'élever jusqu'à lui. En mettant sous nos yeux tous les traits du caractère de l'homme, le Saint-Esprit veut magnifier les richesses de la grâce de Dieu et nous instruire en nous avertissant. Son but n'est pas de perpétuer le souvenir du péché, à jamais effacé aux yeux de Dieu. Les fautes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont été parfaitement lavées et effacées, et ces hommes ont pris place au milieu des esprits des justes consommés. Hébreux 12, verset 23. Mais leur histoire reste dans les pages du livre inspiré pour manifester la grâce de Dieu et pour servir d'avertissement à ses enfants dans tous les âges, comme aussi pour nous faire voir clairement que ce n'est pas avec des hommes parfaits que Dieu a eu affaire dans les temps qui ont précédé, mais avec des hommes ayant les mêmes passions que nous, et chez lesquels il a eu à supporter les mêmes fautes, les mêmes infirmités, les mêmes erreurs que chez nous. Nous trouvons ici le vieux patriarche Isaac sur le seuil de l'éternité. La terre et tout ce qui appartient à la vie ici-bas s'évanouissaient rapidement devant lui, et cependant nous le trouvons préoccupé par un mets savoureux. Plus grave encore, il est prêt à agir en opposition directe avec le décret de Dieu, en bénissant l'aîné au lieu du plus jeune. Nous avons bien là le tableau d'un homme aux yeux déjà affaiblis, non seulement physiquement, mais spirituellement. Si Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un potage de lentilles, voilà Isaac prêt à donner la bénédiction pour un menu de gibier. Combien cela est humiliant. Toutefois, rien ne pourra entraver le dessein de Dieu. L'histoire de Jacob fait ressortir deux grands points. Nous y voyons d'un côté le dessein de Dieu en grâce, et d'un autre, l'homme faisant des plans et des projets pour amener ce que, sans plan ni projet humain, Dieu aurait infailliblement fait arriver. Il nous manque si souvent ces vertus de l'attente patiente et de la dépendance entière de Dieu. Notre nature veut agir d'une manière ou d'une autre, empêchant ainsi la manifestation de la grâce et de la puissance divine. Dieu, pour accomplir ses desseins, n'avait besoin ni de la ruse de Rebecca, ni de la grossière fourberie de Jacob. Il avait dit « Le plus grand sera asservi au plus petit ». Et cela était suffisant. C'était suffisant pour la foi, mais non pas pour l'homme naturel qui, ne sachant ce que c'est que de dépendre de Dieu, en est toujours réduit à ses propres moyens. Savoir attendre le temps fixé par Dieu. Or, il n'y a pas de position plus bénie que celle d'une âme qui, avec la simplicité d'un petit enfant, vit dans une dépendance entière de Dieu, parfaitement satisfaite d'attendre le moment qu'il a fixé. Cette position est éprouvante, il est vrai, mais c'est là que nous apprenons les leçons les plus profondes et que nous faisons les expériences les plus douces. C'est une position bienheureuse que de dépendre de Dieu, pour qui bénir est une joie. Le seul homme qui l'ait jamais occupé parfaitement et sans interruption, c'est le Seigneur Jésus. Il a toujours été dépendant de Dieu et a rejeté absolument toute proposition de l'ennemi qui l'engageait à sortir de cette dépendance. Son langage était « Je me confie en toi ». Psaume 16, verset 1. C'est à toi que je fus remis dès la matrice. Psaume 22, verset 10. Et quand le diable voulut l'amener à user d'un moyen extraordinaire pour satisfaire sa faim, il répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Quand Satan voulut lui faire recevoir les royaumes du monde de la main d'un autre que de Dieu, et rendre hommage à un autre qu'à Dieu, sa réponse fut Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Assurément, il était dans les desseins de Dieu de nourrir et de soutenir son Fils, et il était dans ses desseins qu'il reçoive un jour tous les royaumes du monde. Mais le Seigneur Jésus voulait simplement et avec persévérance se confier en Dieu pour l'accomplissement de ses desseins, au temps et en la manière voulue par lui. Ainsi, il ne cherche pas à accomplir sa propre volonté, il s'abandonne entièrement à Dieu. Il ne mangera que lorsque Dieu lui donnera du pain, et il ne montera sur le trône que lorsque Dieu le voudra, ainsi qu'il est écrit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Psaume 110, verset 1. Ce complet assujettissement du Fils au Père est admirable au-delà de toute expression. Bien que parfaitement égal à Dieu, il prit, comme homme, une position de parfaite dépendance. Il trouvait toujours son plaisir dans la volonté du Père, rendant grâce alors même que les choses semblaient tourner contre lui, faisant toujours ce qui était agréable au Père, ayant toujours pour but invariable de le glorifier. Et quand finalement il eut parfaitement achevé l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire, il remit son esprit entre les mains du Père, tandis que son corps reposait dans l'espérance de la gloire et de l'exaltation promise. Les expédients de Jacob. Combien peu, au début de sa carrière, Jacob était disposé de s'en remettre à Dieu pour le temps et le choix des moyens. Il pensait pouvoir parvenir à la bénédiction et à l'héritage par toutes sortes de ruses et de fraudes, méconnaissant la dépendance de Dieu et la soumission à sa volonté. Mais Dieu, qu'il avait choisi comme héritier des promesses, ne pouvait manquer d'accomplir en sa faveur, selon sa sagesse et sa toute-puissance, tout ce qu'il lui avait promis. Mais, hélas, nous ne savons que trop combien le cœur naturel est opposé à cette dépendance et à cette soumission. Nous voyons en Rebecca et en Jacob la chair en pleine activité. Il n'y a chez eux aucune dépendance de Dieu ni de confiance en Dieu. Il était facile de tromper Isaac, car ses yeux étaient affaiblis. Rebecca et Jacob se proposent de faire ainsi, au lieu de regarder à Dieu, qui aurait rendu complètement vain le projet qu'Isaac avait formé, de bénir celui que Dieu ne voulait pas bénir. Ce dessein d'Isaac avait sa source dans la chair, car Isaac aimait Ésaü, non parce qu'il était l'aîné, mais parce que le gibier était sa viande. Mais quand nous voulons soustraire à Dieu nos personnes, nos circonstances ou notre destinée, nous n'attirons jamais sur nous que le tourment. C'est ce qui arriva à Jacob, comme nous le verrons par la suite. Son frère forma le dessein de le tuer et l'obligea ainsi à fuir la maison de son père. Laban, son oncle, le trompa comme il avait lui-même trompé son père et le traita avec rigueur. Après 21 ans de servitude, il fut obligé de quitter clandestinement son oncle, non sans courir le risque d'être ramené au lieu qu'il avait quitté, ou d'être tué par son frère irrité. Il ne fut pas plutôt délivré de ses craintes qu'il fut rempli d'amertume par la conduite honteuse de son fils Ruben et eut à déplorer la trahison et la cruauté de Siméon et de Lévi envers les habitants de Sichem. Il eut le chagrin de perdre sa femme bien-aimée. Trompé par ses fils, il dut mener deuil sur la prétendue mort de Joseph. Enfin, pour mettre le comble à toutes ses misères, la famine l'obligea à descendre en Égypte et il mourut dans une terre étrangère. Mais ce n'est ici qu'un côté de la vie de Jacob, le côté sombre. Il y en a un autre, que Dieu en soit béni. Dieu avait affaire avec Jacob, et comme nous le verrons, dans chacun des événements de la vie du patriarche, dans lesquels il eut à recueillir les fruits de ses propres machinations et de sa fausseté, le Dieu fidèle tira le bien du mal et fit abonder sa grâce par-dessus les manquements de son pauvre serviteur. L'attitude d'Isaac. Il est très intéressant de voir dans ce chapitre comment, malgré son extrême faiblesse, Isaac conserve par la foi la dignité dont Dieu l'a revêtu. Pleinement conscient du pouvoir qui lui a été conféré pour bénir, il dit à Ésaü, « Je l'ai béni, aussi il sera béni. Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai sustenté avec du froment et du mou. Que ferai-je donc pour toi, mon fils ?» Versets 33 et 37. Il parle comme un homme qui, par la foi, a tous les trésors de la terre à sa disposition. Les tristes manifestations de sa propre nature ne le font pas descendre de la place élevée qu'il occupe. Il a été sur le point d'agir en opposition directe avec le conseil de Dieu, c'est vrai. Toutefois, il connaît Dieu et conserve la place qui lui appartient. Il peut ainsi dispenser les bénédictions dans toute la dignité et l'énergie de la foi. C'est le propre de la foi, de nous élever au-dessus de toutes nos fautes et de leurs conséquences, pour nous faire prendre la place que la grâce de Dieu nous a donnée. Rebecca et Ésaü. Quant à Rebecca, elle eut à endurer les tristes résultats de ses ruses. Elle s'imaginait sans doute conduire toute chose fort adroitement, mais hélas, elle ne revit plus Jacob. Combien le résultat aurait été différent si elle avait tout laissé dans les mains de Dieu. Nous ne gagnons rien à nous inquiéter et à former des projets qui, en fait, excluent Dieu. Ésaü, lui, n'est qu'un profane, qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né, et qui, plus tard, désirant hériter de la bénédiction, fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance. Quoi qu'il l'eût recherché avec larmes. Hébreux 12, versets 15 à 17. Tel est l'homme qui voudrait posséder à la fois la terre et le ciel, jouir du présent sans perdre son droit à l'avenir. C'est un homme dont la conscience n'a jamais ressenti les effets de la vérité et dont le cœur est toujours resté étranger à l'influence de la grâce.